FM, connecté à votre région.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous cette semaine avec Pascal Arbaud. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylvie.
Pascal, vous êtes le président de DAVI, DAVI's Humanizers, exactement.
Tout à fait.
Merci. Alors, présentez-nous votre structure, votre société qui est implantée à Nevers depuis longtemps déjà.
Oui, Nevers c'est un établissement secondaire.
Oui.
J'ai créé DAVI en 2000, donc précisément 23 ans. Et je me suis installé sur Nevers parce que c'était un retour aux sources. J'avais acheté une maison de campagne qui est devenue ma résidence principale. Et au fil de l'eau, j'ai pu créer un établissement avec toutes les compétences dont on avait besoin pour faire grandir cette structure.
D'accord. C'est combien de salariés aujourd'hui, DAVI ?
Alors, nous sommes 30 personnes chez DAVI, avec des profils très divers. Donc, nous avons des chercheurs qui sont stationnés, eux, sur le plateau d'Orsay à Paris, adossés à un laboratoire, qui est le laboratoire d'informatique, mécanique, sciences de l'ingénieur. Nous avons un établissement à Dijon, qui est adossé à l'université de Bourgogne, qui est spécialisé dans les recherches sur le traitement automatique du langage naturel. Et puis l'établissement de Nevers, lui, il est spécialisé sur les activités de service qui déploie toute notre stratégie d'intelligence artificielle auprès de nos clients.
Alors, je me rends compte qu'on a pris un petit peu d'avance et qu'on a raté quand même une information importante pour nos auditeurs, à savoir l'activité de DAVI.
Alors, l'activité de DAVI. Alors, DAVI, nous sommes un éditeur de logiciels.
Oui.
On développe un logiciel qui est une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle Rhétorique. Rhétorique, pour faire court, ça reproduit la voix,
oui.
Ça reproduit les émotions. Et ça reproduit le langage des humains.
C'est pas une mince affaire, ça. La voix, oui. Les émotions et le langage humain, ça, c'est autre chose, quand même.
Oui, alors le tout, ça forme un humain digital.
Oui.
Ça peut paraître une grande science-fiction, mais aujourd'hui, les technologies d'IA nous permettent, en partie, d'atteindre cet objectif. Alors, les émotions... la problématique à laquelle nous étions confrontés dans le domaine de l'IA, c'est que les trois quarts du temps, on travaille sur des robots. Et par définition, les robots n'ont pas d'émotion.
Oui, c'est pour ça que... Jusque-là, tout va bien. Enfin, jusque-là, on suit en tout cas. L'intelligence artificielle, on travaille sur des robots, ils n'ont pas d'émotion. Mais ça, c'est un problème.
Oui, c'est un gros problème, parce que quand on dit à quelqu'un qu'il est robotique... c'est qu'il n'exprime rien sur le langage non-verbal. Donc ce sur quoi ont porté nos travaux de recherche et ce sur quoi notre travail est infini aujourd'hui, c'est que à une espèce d'humanoïde, on essaye de transférer nos capacités non-verbales. On essaye au moins... de le faire jouer sur la gamme des 7 émotions qui sont archi connues.
D'accord.
Et pour ça, pour qu'un robot puisse enfin accéder à une intelligence non-verbale, il faut qu'il apprenne les émotions des humains, il faut qu'il apprenne à reconnaître les émotions des humains. Mais pas que à les reconnaître, il faut que émotionnellement, il soit complètement aligné sur les humains.
Oui, parce que les reconnaître, mais s'il les interprète mal et s'il ne sait pas comment se positionner face à une émotion donnée, ça peut donner des petits couacs.
Bon, ça donne un désalignement complet et ouais. Ça fait strictement l'effet inverse. C'est-à-dire que ça génère de l'angoisse chez l'utilisateur de cette intelligence artificielle et puis ça entraîne un rejet complet de l'image digitale avec lequel on est en train d'échanger. Donc là, je suis à un niveau d'abstraction à la radio, en plus, sans montrer ce à quoi ça ressemble. C'est hyper abstrait. Mais prenons l'exemple, là, on est en train d'échanger ensemble. Le processus humain, c'est de s'aligner sur l'émotion de l'autre. Là, j'ai, par exemple, j'ai pas exclamé tout de suite une grande joie alors qu'on est dans un sérieux d'échange entre nous. L'humain, en général, il joue sur toute la corde, toutes les cordes de ses émotions, comme un musicien. C'est jamais bon d'être tout le temps sur la même émotion. On a cette émotion à notre disposition. L'intérêt, c'est de pouvoir les utiliser à bon escient. Et les utiliser à bon escient, c'est d'être toujours dans la bonne musique quand on est dans un échange entre humains ou entre un humain et une machine.
D'accord. C'est un peu plus clair, même pour les auditeurs. C'est vrai que la radio n'est pas forcément le support qui permet de véritablement visualiser ce que cela donne. Mais je pense que les auditeurs auront aussi à cœur d'aller visiter le site, ne serait-ce que le site, pour avoir une petite idée. Et ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est en fait les usages sur lesquels vous avez déjà travaillé, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec Rhetoric.
Alors aujourd'hui, au-delà de la plateforme technologique, on a une équipe service qui délivre trois grandes typologies d'usages. Le premier usage chez nous, c'est l'accueil. Aujourd'hui, ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que partout où on se rend, dans des administrations, dans des hôpitaux, dans des magasins, dans des galeries marchandes, on n'a pas forcément un niveau d'accueil disponible et forcément un niveau d'accueil satisfaisant. Parce que souvent les personnels d'accueil sont en surcharge cognitive, ils sont pris d'assaut. Et nous, notre proposition, c'est de digitaliser l'accueil. Et comment on le digitalise ? En offrant une forme, c'est-à-dire un agent d'accueil qui est complètement incarné et qui a les mêmes compétences que les agents d'accueil qu'on rencontre partout dans notre quotidien. Donc là, on travaille par biomimétisme, c'est-à-dire que on va regarder comment se comporte un agent d'accueil, quel est son registre métier, quel est son vocabulaire métier, quelles sont ses postures, et on va enseigner à l'agent d'accueil digital à se comporter exactement de la même façon. Donc on l'entraîne, on lui donne des données, et plus on lui donne des données, plus il a des capacités d'accueil développées. Donc ça, c'est le premier usage. On fait aujourd'hui beaucoup d'accueil touristique, on fait beaucoup d'accueil également dans les grandes surfaces, dans les galeries marchandes. On a un accord avec la société Nood qui gère tous les espaces d'accueil pour les grandes surfaces Auchan. Et on déploie au fur et à mesure dans ces grandes galeries marchandes des agents d'accueil parce que les enseignes, aujourd'hui, elles investissent pas sur du personnel humain pour accueillir leurs visiteurs. Elles ont jamais investi, hein, de toute façon, dans l'accueil. Nous, on prend jamais la place d'un agent d'accueil réel. On vient compléter des dispositifs pour soulager ces agents d'accueil et on ajoute de l'accueil, on rend l'accueil plus performant. Donc ça, c'est le premier usage. Le second usage qui est fait de ces technologies, c'est sur les fonctions RH, sur les ressources humaines. On a des entreprises aujourd'hui qui ont des besoins de recrutement massifs. Nous avons des écoles également qui cherchent à former leurs jeunes à l'entretien d'embauche. Donc pour ça, elles font souvent appel à des chefs d'entreprise comme moi pour entraîner leurs étudiants. Ce qu'il y a, c'est que les chefs d'entreprise sont pas super disponibles. Faire de l'entraînement à l'entretien d'embauche, c'est hyper chronophage. Faire des recrutements massifs avec des directeurs RH, ça a des coûts disproportionnés. Donc on évacue souvent cette dimension, la dimension de l'entretien d'embauche quand on a procédé à des recrutements massifs ou à s'entraîner. Donc on a monté un recruteur RH, qui ressemble à un humain, hein, qui a tous les traits d'un humain, qui est là et qui montre des preuves d'empathie, qui cherche à connaître les hard skills et les soft skills des candidats.
Le savoir-faire et les savoir-être pour ceux qui nous écoutent et qui ont, qui ne sont pas encore.
Désolé, forcément... j'ai essayé d'éviter les anglicismes jusqu'à présent.
Je reprends parce que les auditeurs entendent de plus en plus souvent parler de ces notions, mais c'est bon quand même de rappeler de quoi on parle.
Oui. Alors, au niveau des compétences métiers. Oui. Et au niveau des compétences sociales, voilà. Aujourd'hui, nos recruteurs digitaux sont en mesure de donner les principaux indicateurs de performance des différents candidats ou des personnes qui utilisent nos simulateurs RH. Donc pour cela, pour les aider à s'améliorer, et puis pour ceux qui passent des entretiens, à essayer aussi de leur donner des informations sur l'entreprise vers laquelle ils candidatent, et puis leur indiquer aussi s'ils ont les bons attributs métiers et sociaux pour pouvoir travailler dans ces entreprises.
D'accord. Donc c'est vraiment un complément pour aller véritablement sur des secteurs, soit... pour lesquels on ne peut pas investir d'un point de vue humain, soit pour justement soulager certaines équipes d'opérations qui sont très chronophages.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est au cœur de la proposition de valeur de Devy. C'est essayer de rapprocher la machine de l'homme sans avoir à se défaire des humains. Les humains en intelligence artificielle dans notre domaine sont plus que nécessaires, puisque l'intelligence qu'on va transférer aux robots, c'est l'intelligence des humains. C'est pas une magie, c'est pas un truc qui va tomber du ciel ou quoi que ce soit. Les apprentissages que nous effectuons, que nous faisons effectuer à ces machines, ils proviennent des connaissances des humains. Donc on a des connaissances brutes. Pour obtenir des connaissances plus fines et donner un grain plus fin à manger, excusez-moi de l'expression, aux machines, il faut une somme de données, parce que aujourd'hui, les machines produisent peu de raisonnement. Ce qu'elles font, c'est elles reconnaissent des formes et par des méthodes probabilistes, elles vont prévoir et prédire des formes qui s'ajustent le mieux à des formes précédentes. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et je sais que nous y viendrons après, Sylvie, ne sont pas des machines qui ont une espèce de conscience.
C'est ça.
On ne peut pas dire que aujourd'hui, mon ordinateur qui va me délivrer une forme d'intelligence artificielle, il est quoi que ce soit d'une conscience ou le début du commencement d'une conscience qui lui fait dire qu'il est en train de discuter avec moi. Ou de passer un moment avec moi.
D'accord. Je vous propose que nous marquions une pause musicale et que nous revenions justement sur ce sujet ensuite. Que voulez-vous nous faire écouter ?
Alors, on va écouter Joy's Division.
Très bien. À tout de suite.
Le rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. We'll be right back. Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacrés aujourd'hui à la société Davy et donc à, en présence de Pascal Arbeau, son président. Nous avons donc expliqué ce qu'était votre activité et l'intelligence artificielle dont nous avons parlé. Sur cette partie, nous sommes plutôt sur l'actualité et je crois qu'au niveau de Davy, il y a une actualité assez riche et de nombreux développements.
Ah oui, riche, intense.
Riche et intense.
Ouais, ça commence vraiment tout proche. Ça va commencer la semaine prochaine. C'est notre grand rendez-vous annuel, World ICANN Festival.
Alors, qu'est-ce que c'est ce rendez-vous pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas bien ?
Alors, ce sont les rencontres des acteurs de l'intelligence artificielle mondiale.
D'accord.
Ça se déroule à Cannes, la région Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris l'initiative d'impulser depuis de nombreuses années une politique autour de l'intelligence artificielle. Ils se sont dit, on a le palais des festivals de Cannes, on peut faire plein de choses là-dedans. Donc, avant le festival du film, il y a le festival de l'IA.
Donc, vous avez monté les marches aussi ?
Alors, on monte les marches. Il y a le tapis rouge. Et c'est fabuleux, puisque c'est le seul salon qu'on fait en face de la mer, dans un cadre idyllique. Oui. Et surtout avec tous les acteurs mondiaux de notre domaine qui chaque année vont nous présenter leurs avancées. Donc nous, on y va accompagnés du hub IA France. On est 8 entreprises qui représentons l'excellence du savoir-faire de l'intelligence artificielle sur le territoire français. C'est un groupement où on retrouve les entreprises qui sont en partenariat avec des laboratoires de recherche. Et puis, on va présenter notre dernière version de ce qu'on appelle Welcome InfoPoint. C'est un agent d'accueil, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et puis, on va présenter les dernières innovations de notre plateforme, notamment un modèle d'intelligence artificielle émotionnelle qui permet à un robot de s'octroyer des émotions lorsqu'il pense qu'il a compris la question et qu'il a super bien répondu. C'est un modèle un petit peu orgueilleux et ce qu'on appelle un modèle de tendance à l'action qui passe pas forcément par un phénomène cérébral. C'est-à-dire qu'on va déclencher automatiquement des émotions si on a vérifié qu'on a la bonne réponse ou qu'on n'a pas la bonne réponse.
D'accord.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a une réglementation européenne qui est donnée par l'AI Act et qui ne nous permet pas de filmer les personnes pour savoir dans quel état émotionnel elles sont. Et on a été obligé de trouver des modèles psychologiques de raisonnement humain et on va lancer ce premier modèle informatique qui est issu d'un modèle psychologique parce que souvent en informatique on n'invente rien, on modélise de façon informatique des modèles cognitifs ou des modèles psychologiques, enfin pour ce qui est de notre domaine.
Ce qui explique que dans votre équipe de chercheurs, vous avez quand même des docteurs en psychologie, vous vous entourez quand même de personnes qui permettent d'aller jusque-là.
Oui, on s'appuie principalement sur les sciences cognitives. C'est du bio-inspiré. On va aller voir ce que l'humain produit comme réaction. D'où viennent ces réactions, d'où viennent ces émotions, comment il les module, comment il les régule. Des fois, il les régule pas, mais bon.
En règle générale, pour que ça se passe bien, il arrive à les réguler quand même un peu.
Ouais, si on prend la moyenne des humains.
C'est plutôt ça.
Bon, après, il y a évidemment des phénomènes de surjoint qui arrivent dans des moments d'euphorie qu'on reproduit pas parce que chez les robots, aujourd'hui, on va tout de suite aller dans la zone de l'étrange. Hein, si on n'arrive pas à les maîtriser au niveau émotionnel. Des fois, on n'arrive pas à les maîtriser au niveau de leur mouvement. Donc, si on combine les deux, on va aller vers un profond rejet. L'idée, c'est qu'ils soient de plus en plus en empathie et qu'ils nous comprennent. C'est surtout, ça. Et qu'il soit à notre service.
D'accord. Et dans les autres usages, j'ai vu récemment un article dans la presse concernant un projet de voiture autonome dans le Morvan. Et j'ai cru comprendre que vous participiez à cette recherche.
Oui, c'est un projet collaboratif qui s'appelle Simva, qui est porté par l'ISAT, l'Université de Bourgogne, et le laboratoire Drive, avec lequel on intervient dans le cadre d'un groupement d'intérêt scientifique, un GIS. Un GIS associe un laboratoire, ça associe des entreprises et des collectivités locales, en l'occurrence le PNM, un pays nivernais Morvan. Le laboratoire Drive avait ce projet dans les cartons depuis très longtemps. Et puis au moment du Covid, l'État a mis en place des plans de relance, nous a demandé de sortir des projets puisqu'on n'avait plus de contact étroit avec nos clients. On était séparés commercialement de façon assez forte et le chiffre d'affaires ne rentrait pas comme habituellement. Donc on a fait des projets collaboratifs, même si on en a toujours fait. Puis on a ressorti ce projet. Le véhicule autonome, c'est vraiment un domaine de l'intelligence artificielle très très fort. Il faut connaître, reconnaître, entraîner, surentraîner les machines. Nous, on associe nos agents dans le rôle, entre guillemets, du chauffeur de taxi, c'est-à-dire qu'on va emmener une incarnation dans le véhicule pour que les utilisateurs puissent conserver un lien social et affectif. C'est-à-dire que quand on monte dans un taxi, on est content de taper la discussion avec le chauffeur de taxi. Et s'il n'y a pas de chauffeur de taxi, bah, tout de suite, on se trouve hyper désemparé.
Bien sûr.
Donc, nous, l'expérimentation, elle consiste à se dire, bah, dans ces futurs véhicules autonomes, bah, déjà, il n'y aura plus de chauffeur, il n'y aura plus de présence sociale. Donc, il va y avoir une rupture du lien social et affectif. Et on va se retrouver avec des petites mamies qu'on va conduire chez leur infirmière et tout, qui vont se retrouver en panique, qui même monteront jamais dans le véhicule. Donc les expérimentations que nous avons menées côté Davy, c'est de dire, on va gérer l'accueil de ces populations, on va leur expliquer le fonctionnement, on va faire de la pédagogie. Côté ISAT, ce qu'il fallait explorer, c'est que le véhicule autonome, pour les trois quarts des recherches, elles avaient été effectuées en milieu non rural. Donc le milieu urbain, le milieu semi-urbain a des contraintes. Mais le milieu rural a d'autres contraintes qui ne sont pas prises en compte par le milieu urbain. Souvent, c'est des milieux qui sont montagneux, avec des accotements qui sont hyper différents, des routes dont le revêtement est également complètement différent. Donc, on a besoin de données. Et l'ISAT avait besoin de données. Donc, on a fait des expérimentations du côté de Coulanges, du côté d'Urzy, du côté de Feuilles, dans des routes super... super rural, on va dire.
Super rural.
À la limite des champs, on est allé, on a installé également cet agent d'accueil, ce chauffeur de taxi digital, et puis on a aussi emmené dans notre simulateur commun, au laboratoire, des personnes âgées pour étudier leur comportement en simulateur si elles avaient à monter dans un véhicule autonome. Donc on vient de le livrer, ce projet, il est plein de promesses, on a plein de données. Ce qu'on voit, c'est que heureusement qu'on a monté cette étude et heureusement que nous avions des doutes sur la façon d'accompagner ces populations à s'approprier un véhicule autonome. Ça va nous permettre de revisiter notre proposition de valeur et puis d'aller vers une industrialisation de ces véhicules typés pour le milieu rural dans les années 2030.
Donc dans peu de temps finalement.
Oui, ça va être super court.
Bon. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais en quelques mots, je sais qu'il faudrait, on pourra en parler très très longtemps, l'intelligence artificielle peut faire peur à certains, amis ou ennemis.
Alors, l'IA, c'est comme d'autres domaines, hein. Par exemple le nucléaire, je fais souvent le pendant, c'est l'usage qu'on en fait. C'est toujours une question d'usage, c'est la façon dont les humains vont s'approprier les technologies. Qui doit poser question la technologie, elle s'autodétermine pas. C'est l'humain qui va déterminer de l'usage d'une technologie. Donc l'IA, si vous n'avez pas une volonté prononcée d'être au service de l'humain, et si vous voulez l'utiliser contre l'humanité, bah, vous allez toujours trouver un moyen de l'utiliser pour faire du flicage, pour surveiller votre conjoint, surveiller votre conjointe,
sympa,
pour
ça.
Surveiller des populations.
Oui, c'est ça, ce sont les dérives, mais qui sont liées à l'humain, en fait.
Ouais, ce sont les biais des humains qu'on arrive à injecter dans des machines. Donc, ce n'est pas que des biais de surveillance. Hein. C'est également dire, on va manipuler des foules. Je vous prends l'exemple des tweets de Donald Trump qui ont servi de base d'entraînement à une intelligence artificielle. Bah, si vous voulez, si vous filez les biais de Donald Trump à une intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous le clonez. Hein. Et vous le clonez à une échelle... impossible. C'est-à-dire que après, ça va se démultiplier sur les réseaux sociaux. L'IA, elle va trouver que le volet sombre, par exemple, de la République française pour la dénoncer. Mm-hmm. Et vous allez pouvoir l'utiliser dans une démarche politique malveillante. C'est ce qui s'est passé à l'occasion de des dernières élections où on s'était servi de ces technologies pour biaiser et faire monter certains partis.
D'accord. Donc il y a quand même un risque qu'il y ait à l'homme. Est-ce qu'il y a la nécessité ou est-ce qu'il existe des moyens de régulation pour justement permettre d'utiliser l'IA pour ce qu'elle peut apporter de bien ?
Alors il y a deux types de régulation. Il y a la régulation qui est portée par les entreprises en leur sein. Et ça dépend aussi comment se déterminent les entreprises et quel est le positionnement de l'entreprise et ce qu'elle va délivrer comme IA. Chez Devy, on a fait le choix des traitements. C'est-à-dire que on va être dans la motorisation de l'IA. On va prendre de la donnée, on va la traiter, mais cette donnée-là, elle ne va jamais nous appartenir.
D'accord.
Et puis, en termes de régulation, et il y a l'European Act qui est en train de sortir. Il y a quelques fuites que vous pouvez voir sur le web, parce que on a besoin et tout le monde a besoin que le régulateur et le législateur s'emparent de cette matière pour mettre un frein à certaines dérives. La dérive essentielle, c'est de transférer ses biais, de transférer ses croyances, pas que ses biais, aux machines, et d'évangéliser des machines, puis des humains, autour de ces croyances, et d'aboutir ainsi à une manipulation de masse. Manipulation de masse qui existe, mais qui peut être encore accentuée via aujourd'hui le fait que les jeunes sont de plus en plus devant leurs écrans, qui prennent tout pour argent comptant. Je vous en passe et des meilleurs. Moi, je suis pas là pour juger de comment évolue la société. En tout cas, je sais et je connais les outils qui peuvent être utilisés pour mener cette dernière à une bonne dérive.
D'accord. Pas très rassurant, mais en même temps, donc, ce besoin de régulation.
Si on veut voir Sylvie, si on veut voir le côté ami, pour vraiment être sur une note positive, parce que je pense qu'il y a plus de positif. Le positif, il est dans le médical. Aujourd'hui, les machines ont des capacités à ingurgiter un nombre incalculable d'études. C'est impossible pour un docteur humain d'ingurgiter un nombre des milliers d'études, de thèses, etc. Donc aujourd'hui, en prévention, on a des machines qui sont capables de détecter n'importe quel type de maladie. Hein. Maladie de la peau, cancer, j'en passe et des meilleurs. Nous travaillons avec des ophtalmologues aujourd'hui et on est capable de faire des prédiagnostics et des diagnostics hyper précis plus précis qu'un ophtalmo parce que derrière ça, on branche des dizaines de caméras intelligentes, etc. C'est pas pour négliger le travail de l'homme, c'est que l'homme a une autre valeur ajoutée, c'est qu'une fois qu'on aura fait ses diagnostics et tout, lui, il sera en mesure de mettre en place le curatif. Mais dans le diagnostic, l'IA, c'est un outil fabuleux, faut surtout pas oublier ça, c'est génial. Là-dessus, je pense que c'est la réponse imparable. Elle est sur comment on va apporter de la prévention, parce que on sait que sur le curatif aujourd'hui, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières. Et moi, je pense que l'IA, ça peut être une super issue pour les traitements, pour le soin, pour la prévention, et surtout sur nos territoires ruraux qui sont désertés malheureusement par le corps médical. On va bientôt faire des expérimentations de prédiagnostic et de diagnostic ophtalmo pour ceux qui attendent un an avant d'avoir un rendez-vous chez leur médecin traitant. Et ça, en termes d'avancée, il faut regarder ça comme une aubaine.
Donc il y a AMI.
Oui.
On marque une nouvelle pause en musique. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci, Pascal ?
David Bowie, Ashes to Ashes, parce que ça cogne bien.
Très bien. À tout de suite.
Le rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant.
It's true. They got a message for the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Solid details fall away. The shrieking when nothing is given. Just pictures of chap girls and synthesis. And I ain't got no money. The kick but the flat end is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high. Hitting that all time low. Again, I'm stuck with a valuable friend.
rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire, accompagnés aujourd'hui de Pascal Arbaud, qui est le président de Davy. Pascal, vous nous avez parlé donc de votre activité de l'intelligence artificielle, et merci en tout cas pour ces précisions. J'aimerais maintenant que vous nous disiez un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours, et on sent bien au travers de ce que vous nous avez dit dans votre façon de travailler qu'il y a quand même des valeurs qui sont là. J'aimerais bien que vous nous en parliez.
Je vais faire court parce que j'ai un peu traîné en longueur auparavant, puis c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors mon parcours, je suis nivernais d'origine, guérinois. Parce que j'y tiens.
je vois.
J'ai un parcours, assez chaotique. Avant tout, je suis entrepreneur et je me suis libéré dans l'entrepreneuriat. C'est pas venu comme ça. Mm-hmm. Ça vient vraiment de l'enfance parce que j'ai une maman qui a un esprit vraiment d'entrepreneur, qui a piloté des entreprises. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le cadre scolaire n'était pas tout à fait approprié à ma personnalité. Tout ça, c'est relatif à l'énergie que j'avais. Donc, gosse, je préférais dépenser mon énergie sur un terrain de foot, sur un terrain de basket. Donc, je me suis rendu compte que je mettais tout dans le sport. Et puis, quand ça m'est passé, il me restait beaucoup d'énergie. J'ai eu un parcours scolaire qui m'a pas permis d'être dans des écoles d'informatique comme j'en avais rêvé, puisque à l'époque, mon entourage familial, c'était au moment où Bulle coulait et tout, m'avait indiqué que c'était pas du tout un métier d'avenir. D'accord. Et donc je suis super autodidacte au niveau du coding, ce qui a fait que quand j'ai lancé Davy, c'est moi qui codais. J'ai codé les premières lignes, j'ai contribué au dépôt du premier brevet, mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas la personne clé au niveau du développement, et j'ai tout de suite été embarqué par le réseau Entreprendre, qui m'a accompagné pendant ma jeunesse entrepreneuriale et qui a révélé en moi un entrepreneur que je soupçonnais pas. Je soupçonnais pas que je pouvais être. Peut-être la seule qualité que j'ai, hein, c'est la résilience. Parce que je me dis, au bout de 23 ans, même si tout s'arrête demain, au moins, j'aurais fait 23, 25 ans d'entrepreneuriat, même parce que j'ai commencé à être entrepreneur avant. Et ce parcours d'entrepreneur, je suis hyper heureux de ce qui m'a fait découvrir. J'ai eu une vie rêvée, une vie que j'imaginais pas. Et pourquoi ? Parce que je pense que j'ai piloté ma vie et c'est moi qui ai fixé la destination. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, je reviendrai pas en arrière. Je suis hyper heureux des choses qui s'ouvrent à moi, et j'ai un passé qui m'a super servi, et puis des parents qui m'ont toujours soutenu, une famille.
Donc ça, c'est important ce que vous dites, la famille qui soutient et cette liberté qui transparaît dans ce que vous nous dites, ce goût de la liberté d'entreprendre et pas envie de revenir en arrière.
Oui, c'est fondamental dans ma démarche, parce que la fin de la fin, je me voyais pas à un moment avoir un lien de subordination. C'est un truc qui m'a toujours j'ai toujours trouvé ça hors du temps, hors de notre époque et tout. C'est marqué dans les contrats de travail français, hein, ce truc.
Oui, le lien de subordination, il apparaît, oui.
Ouais. Je trouve que on n'est pas loin d'une formule d'un autre temps. Donc je voulais pas de ça pour moi et je voulais être dans le leadership. Ce qui m'intéressait, c'est pas spécialement le management, c'est le leadership. J'ai connu ça dans le sport. J'avais pas un niveau de dingue. Je me rappelle au foot, mais ce qui je me pense se faisait notre force lorsque j'étais avec des équipiers. Et ce que j'ai vite décelé, c'est le groupe. Le groupe qui envoyait une énergie et moi, ça me transcendait. J'ai souvent été le capitaine de mon équipe parce que j'avais souvent des joueurs, les trois quarts, qui étaient au-dessus de mon niveau. Mais la seule force que j'avais, c'était de pouvoir rassembler.
Rassembler, j'ai toujours les emmener.
Ouais. Ce côté peut-être que j'ai appris de mon père, ce côté bon copain. Et j'ai toujours aimé passer des moments de convivialité et être avec les autres, ça me remplit, ça me suffit.
D'accord, ça c'est important, mais ça décrit bien qui vous êtes. Des rêves pour la suite, parce qu'on a bien compris que même si tout devait s'arrêter, il y a cette satisfaction d'avoir fait ce que vous adorez, mais... On voit bien qu'il y a encore une énergie folle, des projets. Ça s'arrête pas. C'est quoi votre plus grand rêve ?
Alors le rêve, c'est pas un truc que je m'interdis, mais c'est quelque chose que je prononce rarement parce que je trouve que c'est hyper éloigné de la posture entrepreneuriale, parce que à partir du moment où on se projette sur le rêve, je le laisse plus sur la sphère familiale.
Oui.
Pour mes proches, pour l'entreprise, dès que je me mets à rêver, je me mets à dérailler. Je n'ai plus les pieds sur terre et je vais trop loin. Donc, j'ai besoin d'atterrir. Parce que si je laisse mon imagination faire, c'est contre-productif pour la société. Il faut que je sois dans le plan et j'ai un plan. Et le plan aujourd'hui, c'est... de filialiser l'ensemble de nos domaines d'activité stratégiques, parce que j'ai empilé beaucoup et beaucoup trop d'activités sur la société mère, hein, qui est Devise Humanizer. Et aujourd'hui, c'est de remettre de la valeur sur chaque branche d'activité. On a une branche d'activité dans le domaine R&D et dans le logiciel qui peut être super valorisé. Et il faut absolument qu'on soit focus sur cette activité. Vraiment, un de mes défauts, ça a été de m'éparpiller. C'est aussi une de mes qualités, parce que quelque part, ça marque la curiosité. Et la curiosité, ça emmène toujours vers le lendemain et ça emmène toujours à trouver des solutions. Donc, le rêve, c'est que demain, je vais quand même le prendre, le truc du rêve, là.
Ouais.
Demain, je puisse transmettre mon entreprise à mes salariés dans de bonnes conditions, qu'ils soient accompagnés par un fonds d'investissement qui est dédié à la petite tech, et que moi, je puisse me consacrer à accompagner des entreprises et des entrepreneurs surtout. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner des entrepreneurs parce qu'ils me filent de l'énergie. Quand je suis au bout de ma life, que j'ai pas beaucoup dormi, que j'ai passé un temps de fou sur mes dossiers, et que j'ai envie de passer à autre chose. Si je prends un moment pour moi, c'est aussi un moment dans mon hobby, qui est d'accompagner les entrepreneurs, et maintenant depuis un grand moment avec le réseau d'entreprendre, parce que entre nous, on se redonne de l'énergie, et ce sont mes seuls collègues, et c'est les seuls qui ont les mêmes préoccupations que moi, et la même vision, et la même abnégation.
Parfait. Donc il y a quand même un rêve, et en tout cas une belle mission, et un beau projet qui est de transmettre aussi aux salariés, et de continuer à transmettre en accompagnant les chefs d'entreprise. Merci pour votre présence aujourd'hui sur nos ondes, Pascal Arbeau. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup,
Pascal.
Sylvie. C'était un vrai plaisir.
Merci.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.